Merci Seigneur Esprit Saint de répondre à cette prière que nous venons de formuler au nom de Jésus, de venir sur chacun d'entre nous pour que tu puisses illuminer notre cœur de ta lumière infinie, de ton amour infini, toi qui es l'amour du Père et du Fils, toi qui es la troisième personne de la Trinité Sainte. Viens en nous. Viens te manifester en nous par la puissance et l'humilité de ton amour. Viens crier dans nos cœurs, Abba Père, pour que nous puissions recevoir l'amour du Père et découvrir que nous sommes les enfants bien-aimés de Dieu. De l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 9, à partir du verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Alors Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Voilà l'évangile que je vous lis aujourd'hui, c'est l'évangile de la messe de samedi dernier. Et ce qui me frappe dans cet évangile d'abord, c'est de voir Jésus tout simplement parcourir les villes et les villages. C'est quand même extraordinaire de penser que notre Dieu, que le Fils de Dieu, qui est la deuxième personne de la Trinité, a pris chair et qu'il a pris la peine ensuite d'aller de village en village, de ville en ville, pour manifester aux hommes l'amour de son Père. Très humblement, Dieu a pris son bâton de pèlerin pour aller à notre rencontre et aller nous chercher, comme un bon berger va chercher ses brebis une à une. C'est quand même extraordinaire, parce que Dieu est tout puissant dans le ciel, il aurait très bien pu faire voyez, un grand miracle dans le ciel, au-dessus de toute la terre, pour que tous les hommes l'adorent et se convertissent, mais Dieu n'a pas voulu agir ainsi, il a voulu agir avec humilité, il a voulu agir avec douceur. S'il avait fait un grand miracle dans le ciel, nous l'aurions tous adoré peut-être, mais nous n'aurions pas compris l'humilité de Dieu ni son amour. Nous aurions adoré la toute-puissance de Dieu, mais nous n'aurions pas compris combien Dieu est humble et doux. Finalement, nous n'aurions rien compris de Dieu du tout. Et Dieu ne veut pas ça. Dieu veut que nous découvrions son cœur, son humilité, son amour, pour que nos cœurs changent. Il ne suffit pas de se prosterner devant Dieu et de l'adorer, il faut que notre cœur change. Il devienne humble, pauvre. Un cœur qui est capable d'aller rejoindre les autres avec humilité, comme Jésus l'a fait lui-même. Et le Seigneur, dans son humanité, enseigne dans les synagogues. Et il enseigne avec les paroles que le Père lui a données. Mais ces paroles, il les prononce avec sa bouche d'homme, d'homme à homme. Et on sait que ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son autorité, de la puissance de sa parole, de la vérité de sa parole, de la limpidité de sa parole. Et pour qu'on puisse reconnaître qu'il est le Fils de Dieu, qu'il proclame avec autorité l'Évangile, qu'avec lui le royaume est inauguré, il guérit les malades par cette parole, il guérit et il libère. Il montre que sa parole est efficace. Ça, c'est le signe de Dieu. Le signe de la parole de Dieu, c'est qu'elle est efficace. On le voit dès le premier livre de la Genèse. Quand Dieu dit que la lumière soit, eh bien, la lumière est. Que la lumière soit, écrit l'auteur, et la lumière fut. Rien de plus. Ce que Dieu dit, c'est ce qui se réalise. Cette parole efficace, limpide, qui ne parle pas avec des fioritures, qui dit simplement la vérité telle qu'elle est, est une parole qui donne la vie, une parole qui est capable de guérir toute maladie, parce que rien ne peut résister à cette parole divine, puisque c'est la parole de Dieu. Et nous voyons ensuite dans l'Évangile Jésus avoir compassion des foules. Si Jésus a compassion des foules, c'est qu'il sait combien il y a de souffrances dans notre monde. Évidemment, tout le monde ne souffre pas de manière comme les malades dans les hôpitaux, comme ceux qui sont dans de graves problèmes. Mais tout le monde traverse à un moment donné dans sa vie la souffrance et tout le monde est affronté à des épreuves. Parfois, on se dit, j'aimerais bien que mon voisin ou un tel, lui, j'ai l'impression qu'il ne souffre pas, moi, c'est toujours la galère. Le problème, c'est que moi, en tant que prêtre, je n'entends que des gens qui me disent, j'aimerais bien être comme l'autre qui ne souffre pas. Donc, si tout le monde est comme l'autre, pense être comme l'autre qui ne souffre pas, ça veut dire que je ne sais pas qui ne souffre pas. Tout le monde espère avoir une autre vie que la sienne, plus facile. Mais non, il n'y a pas de vie facile, ça n'existe pas. Il y en a qui la cherchent dans la drogue, dans l'argent, mais leur vie devient encore plus difficile au fur et à mesure où ils sont liés par leurs péchés, par leurs addictions. Il n'y a pas de vie facile en ce monde. Le Seigneur nous demande d'accepter de porter notre croix. Ce qui va alléger notre vie, ce n'est pas qu'il y ait forcément moins d'épreuves. C'est l'amour du Seigneur dans notre cœur. C'est que notre vie prend un sens. C'est que nous savons où nous allons. C'est que nous avons un berger. Voilà ce qui manque aux foules, un berger pour les conduire vers le Père. Sinon, on conduit sa vie, on mène sa vie sur cette terre, comme on dit, métro, boulot, dodo, mais on ne sait pas où on va. On vit sa vie, on mange, on boit, on prend le métro. Mais on ne sait pas où on va. Et à l'heure de sa mort, eh bien on se demande ce qui se passera après, comme cette infirmière qui accompagnait des personnes proches de la mort. Et il y a une personne qui, je ne sais pas moi, une demi-heure ou une heure avant sa mort, lui demande « Mais qu'est-ce qui va m'arriver après ? » Fallait-il attendre une heure avant sa mort pour se poser cette question « Qu'est-ce qui va m'arriver après ? Où est-ce que je vais aller ?» Mais c'est une question qui doit nous tarauder toute notre vie. Où est-ce que je vais aller après ma mort ? Où est le chemin pour la vie éternelle ? Comment avoir cette vie éternelle ? Comment l'obtenir ? Et si je suis sûr d'avoir cette vie éternelle, je suis prêt à accepter tout sur cette terre parce que je sais que je vais avoir cette vie éternelle, le bonheur éternel que personne ne pourra m'enlever. Nous devons porter notre regard vers la vie éternelle. Et c'est le bon berger Jésus qui est le seul chemin pour obtenir cette vie éternelle. Il n'y a pas d'autre chemin que lui. Il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Alors durant cette vie, ne perdons pas notre temps dans des choses inutiles, mais cherchons le vrai chemin. Laissons Jésus nous rejoindre, parce que c'est d'abord lui qui vient nous rejoindre, qui a compassion de nous. Laissons-le nous rejoindre et nous guider vers son Père. Crions vers lui, « Seigneur, guide-moi !» Ce que j'ai fait à 25 ans, j'ai dit au Seigneur, « Maintenant, jusqu'à présent, Seigneur, j'ai essayé de conduire ma vie, je me rends bien compte que je me suis planté complètement. » Maintenant, je te demande de conduire ma vie totalement. Et je peux vous dire qu'à ce moment-là, ma vie a changé. Je suis même devenu prêtre après. Mais vous ne deviendrez pas forcément prêtre si vous dites ça. Dieu soit loué. Mais il faut quand même demander qu'il y ait des gens, comme Jésus le dit, qui acceptent de travailler la moisson. Des gens qui acceptent d'être disponibles. Ce n'est pas facile d'être serviteur du Seigneur, qu'on soit prêtre, qu'on soit la catéchiste, qu'on ait une mission dans l'Église. Ce n'est pas facile. Il y a des combats, beaucoup de combats. Parfois, on est tenté de se décourager. Mais le Seigneur a besoin d'ouvriers à sa moisson. Et cette moisson, elle est magnifique. Et s'il y a des ouvriers qui sont prêts à travailler à la moisson, alors le blé ne va pas pourrir sur pied. S'il n'y a pas d'ouvriers pour travailler à cette moisson, le blé, la moisson pourrit sur pied, comme on dit. Personne n'est là pour la moissonner. C'est perdu. Toute l'œuvre de l'Esprit Saint est perdue. On a besoin de missionnaires, de gens qui se donnent pour la moisson, il y en a besoin de personnes qui prient pour cela. Et à ses disciples, qui sont les premiers ouvriers à travailler à la moisson du royaume, le Seigneur donne des pouvoirs le pouvoir d'expulser les esprits impurs, de guérir les maladies et les infirmités. Alors des pouvoirs, tout le monde en veut, hein, sur cette terre, promettez des pouvoirs, tout le monde est prêt à accepter les pouvoirs. Dès qu'on donne des pouvoirs, tout le monde est prêt. Seigneur, donne tous les pouvoirs que tu veux, donne-les-moi. Oui, mais pour pouvoir exercer ce pouvoir de guérir, de libérer, il faut accepter d'être dépossédé de tout. Il ne faut pas que ce pouvoir vous appartienne. Il faut accepter d'être serviteur du Seigneur et de faire sa volonté. Il faut connaître sa parole. Tout le monde est prêt à guérir les malades. Il y a des gens qui me demandent, « Mon Père, j'aimerais bien guérir les malades. Dites-moi comment il faut faire. » Bien moi, je leur dis, « Priez le Seigneur. Abaissez-vous devant le Seigneur. Méditez la parole de Dieu. Transformez votre cœur. » Commencez par là, puis peut-être le Seigneur vous donnera un jour la grâce de pouvoir guérir les malades s'il le veut. Sachant qu'on ne guérit jamais les malades tout seul, on n'est pas des stars dans l'Église. On guérit les malades en communauté, c'est toute l'Église qui prie pour la guérison des malades, pour la libération. C'est une œuvre commune, ce n'est pas l'œuvre d'un seul, même s'il y en a un qui donne des paroles, des charismes. C'est la prière de toute l'Église qui porte ces guérisons et ces libérations. Et donc nous devons, nous chrétiens, reprendre conscience de cette mission de guérir les malades, pas simplement pour les guérir, de libérer, pas simplement pour libérer, mais pour ouvrir un chemin vers le royaume, pour manifester ce qui est bien plus important que toute libération et que toute guérison, c'est la vie éternelle. Parce que même si on n'est pas guéri, on peut obtenir la vie éternelle. Et même quand on n'est pas guéri, on peut offrir sa vie pour que d'autres obtiennent la vie éternelle. Le Seigneur nous donne beaucoup, et à travers cette prière, il donne énormément. Il y a des centaines de personnes qui ont été guéries, qui ont reçu des grâces. On ne peut pas toutes les donner dans les témoignages. Le Seigneur surabonde d'amour quand on est pauvre devant lui, quand on crie vers lui, quand on a foi en lui, quand on espère en lui, quand on est prêt à se ridiculiser pour lui. Les premières fois que j'ai donné des paroles de connaissance, je peux vous dire que j'avais peur du ridicule totalement. J'avais peur que ça ne se passe pas. Je peux vous le dire, il faut accepter de mourir pour le Seigneur. Ce n'est pas toujours facile. Voilà, maintenant je vais vous donner des témoignages. D'abord, un témoignage de guérison du cœur, parce que je parle évidemment beaucoup des témoignages de guérison physique, mais les guérisons du cœur sont encore plus importantes. Donc cette lettre que j'ai reçue d'une personne qui s'appelle Gisèle, elle écrit « Bonjour, je m'appelle Gisèle, je vous apporte mon témoignage ». Au début du mois d'octobre, le 5 précisément, je me trouvais à la prière des malades. Une parole a été prononcée, une parole qui annonçait la délivrance d'une personne de la rancune. J'ai beaucoup souffert durant toute l'année de la miséricorde divine. Vous vous rappelez de cette fameuse année de la miséricorde divine. J'ai beaucoup souffert durant cette année de la méchanceté de deux membres de ma fratrie. La blessure était profonde. Jour et nuit, je ressassais leur méchanceté envers moi et mes enfants. J'étais, pour ainsi dire, comme hanté. J'ai essayé à plusieurs reprises de m'éloigner de ces pensées, mais rien à faire. Alors j'ai crié au Seigneur de m'aider, car c'est à lui qu'appartient tout jugement, et il m'a secouru. Dès le lendemain, plus rien, l'obsession était partie. Je revis, je me sens mieux, je suis en paix. Elle écrit aussi, « S'il y a des cas comme les miens, que mes frères et sœurs appellent le Seigneur, et il viendra sûrement à leur secours. Notre Dieu est vivant, présent, puissant, glorieux, qu'il soit béni à tout jamais. Amen. » Voilà, puis maintenant d'autres témoignages, des témoignages de guérison. Par exemple, cette femme qui est venue prier pour sa mère qui habite en Algérie, qui avait une grave infection au sein droit et les médecins n'arrivaient pas à la soigner avec tous les médicaments qu'ils lui donnaient. Donc elle est venue prier à la prière des malades, elle a prié Jésus, et dans les temps qui a suivi, très rapidement, sa maman a guéri. Un autre témoignage d'une autre femme qui a ressenti pendant le passage du Saint-Sacrement un souffle sur son visage. Et en rentrant chez elle, elle a constaté qu'elle marchait beaucoup plus facilement qu'avant, qu'elle avait beaucoup moins mal à la hanche, et elle rend grâce à Dieu. Un troisième témoignage d'une personne, une femme aussi, issue d'une famille musulmane, donc je ne donne pas le prénom par discrétion, qui est venue à prier à Saint-Nicolas-des-Champs, en particulier pour sa fille. Il y a une parole annonçant la guérison de la thyroïde d'une jeune fille. Et effectivement, les analyses que cette jeune fille a, qui ont été faites à cette jeune fille peu de temps après, ont montré qu'elle était guérie, et les médecins n'y comprenaient rien. Quelque temps après, sa maman, elle aussi, est tombée malade en grande souffrance. Elle est transportée d'urgence à l'hôpital. L'échographie révèle une poche d'eau au niveau du foie et des kystes. Sa fille, donc celle qui a été guérie précédemment, va, elle, à son tour, prier à la prière des malades de Saint-Nicolas-des-Champs. Parole de connaissance annonce la guérison d'une personne musulmane ayant un problème semblable à celui de sa maman. Eh bien, l'échographie suivante a montré que sa maman n'avait plus aucun kyste et que cette poche d'eau avait disparu. Et là encore, les médecins n'ont rien compris. Suite à ces deux guérisons, la sœur de cette maman, vous me suivez ? La sœur de cette maman, voyant sa sœur et sa fille guéries, se convertit et demande le baptême. Et elle conseille à sa sœur... Elle conseille à sa sœur, mais quand même, lis l'Évangile, Jésus t'a guéri. Et du coup, sa sœur a décidé, elle aussi, de demander le baptême avec ses deux enfants. Merci Seigneur. Jonas nous a écrit une lettre que je résume. Il souffrait d'une forte douleur au genou droit. Il a consulté un médecin et a reçu un traitement, mais sans aucune amélioration. Il est venu prier à la prière des malades, ayant entendu qu'il y avait des miracles qui se produisaient dans cette assemblée, mais il n'a pas voulu seulement prier pour lui-même. Il a, avec lui, porté d'autres intentions. En tout cas, il y a eu une parole de connaissance annonçant la guérison d'un genou, et à ce moment-là, il a ressenti une chaleur dans son corps, et depuis, donc instantanément, déjà en sortant de l'église, il a constaté que son genou avait retrouvé son agilité. Et il a tellement bien été guéri qu'il a pu reprendre son sport favori, le vélo, qui sollicite quand même pas mal le genou. Voilà, et il termine par « Merci Seigneur de m'avoir accordé cette guérison ». Marie, elle rend grâce parce qu'elle est venue prier pour différents membres de sa famille et elle a obtenu des réponses du Seigneur, mais elle a prié en particulier pour son mari qui depuis 13 ans, c'est-à-dire depuis la mort de sa propre maman, avait changé, était devenu très caractériel et très dur, notamment avec elle. Elle a prié pour son mari, pour qu'il reçoive la lumière de la paix dans sa vie, comme Saint Martin, écrit-elle dans sa lettre. Et après cette prière, elle a remarqué que depuis, eh bien, son mari est redevenu plus calme et plus posé, et qu'il est aussi plus à l'écoute. Alors merci Seigneur pour cette grâce qui a permis à ce couple de mieux vivre ensemble dans la paix. Je termine par cet autre témoignage. Véronique, qui devait subir une ablation de l'utérus, elle est venue en avril 2008. Une parole de connaissance a annoncé que le Seigneur guérissait une personne qui devait subir une ablation de l'utérus. Deux semaines après, elle est allée chez son médecin pour un rendez-vous préalable à l'opération. Et les examens ont montré qu'elle n'avait plus rien à l'utérus, et donc qu'elle a conservé son utérus. Merci Seigneur. Voilà, le Seigneur donne beaucoup de grâce dans cette assemblée. Je vous en donnerai encore les jeudis prochains, il y a encore beaucoup de témoignages. Donc ayons confiance dans le Seigneur, demandons-lui sa grâce pour nous, mais n'oublions pas aussi de prier pour notre voisin. On n'est pas simplement venu prier pour soi, mais aussi pour la personne d'à côté, pour la personne qu'on prie dans son cœur. Et ce n'est pas parce que vous priez pour les autres que vous ne serez pas guéri. Au contraire,